Nous allons donc ouvrir la deuxième séance de cette conférence de presse, la séance des questions-réponses. Il nous reste une vingtaine de minutes. Nous allons la partager avec tous les assistants à ce panel de la conférence de presse. Monsieur Choi, du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui vous a présenté le rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme. Et bien sûr, nos invités, nos collègues de l'équipe pays humanitaire et développement. Nous allons prendre tout de suite une question sur la gauche. Je vois plusieurs mains levées. Choisissez, oui.
Ok, merci. Hakim Kombo pour Kalkin TV. À l'absence du représentant spécial Martin Kobler, j'espère que même Antoine Charles Mambara peut répondre. Monsieur Kobler était catégorique lundi devant les 15 membres du Conseil de l'ONU. Il a en fait martelé qu'il n'y aura même pas une seule minute de prorogation pour les FDLR. Ma question est celle de savoir, est-ce que à l'issue de l'échéance, donc après les 2 janvier 2015, est-ce que toutes les unités de la MONUSCO vont-elles entrer en danse, ou seulement ça sera la brigade d'intervention composée des Africains? Parce que si ma mémoire est bonne, le chapitre 6 dont émane la résolution 2098 n'accorde pas le mandat offensif à la MONUSCO. Est-ce que aussi la SADC et la CIRGL vont-elles apporter leur aide militaire à la MONUSCO et FARDC? Voilà.
Merci. Nous avons toujours répété ici, sur l'ensemble des opérations militaires, et je crois que cela a été dit très clairement, la MONUSCO appuie les troupes gouvernementales, et ce faisant, je crois que cette date butoir du 2 janvier a été, j'allais dire, donnée par la SADC, appuyée par la CIRGL, bien entendu, et en présence des représentants des différents gouvernements de la sous-région des Grands Lacs. Ce faisant, Monsieur Kobler a effectivement dit qu'il restait, je crois, quelques mois au FDLR pour ou se rendre, ou vraiment faire face à l'opération militaire qui va être conjointement engagée, je dis bien conjointement engagée, par les FRDC et la MONUSCO. Effectivement, les différences, ce sera bien sûr au général, au commandant de la force de la MONUSCO, de voir qui, au niveau de la force, va monter en première ligne. Mais l'ensemble des troupes de la MONUSCO reste disponible. Nous avons, et le commandant, le colonel Basse, qui est souvent ici avec nos porte-parole militaires, a souvent dit, nous avons une force, un mandat, et c'est ensemble que nous exécutons ce mandat-là. Merci. Nous allons prendre une deuxième question, peut-être au fond, un peu plus au fond, avant de partir peut-être à Goma. Oui, présentez-vous, monsieur, et donnez-nous votre organe.
Gianni Kabongo pour l'agence Univers Plus Média. La question, c'est au porte-parole militaire, ou bien à vous, c'est celle de savoir où serait passé le militaire et pro Bozizé, qui s'était réfugié en Centrafrique et au nord au Bangui, plus précisément à Zongo, Gemena. Leur nombre, sont-ils pris en charge par le gouvernement ou par la MONUSCO?
Commandant Kékéré, avez-vous eu vent de ces militaires pro-Bozizé qui seraient à Zongo côté RDC?
Ce qu'on peut dire par rapport à cette situation, c'est que suite aux événements qui se sont déroulés en Centrafrique, il y a eu des réfugiés qui ont traversé la frontière du côté de Zongo. Parmi eux, il y aurait des militaires liés à l'ancien président de la Centrafrique. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas un nombre déterminé ou bien une situation claire. Il y a des réfugiés et parmi eux, au cours du déplacement de population, ce qui est sûr, il y a une amalgame, c'est-à-dire il y a un bon nombre de personnes qui se déplacent, il y a des militaires, il y a tout le monde. Mais du côté de Zongo, à l'heure où je vous parle, parmi les réfugiés qui se trouvent là-bas, le nombre de militaires de l'ancienne armée de la Centrafrique, liés principalement au président Bozizé, n'est pas déterminé concrètement.
Merci, nous allons prendre...
Voilà ce que je te dis.
D'accord, merci bien, commandant. Nous allons prendre une question quelque part. Ok, allez-y.
Merci, Albert Omba, Numérica TV. Je voudrais aller tout droit chez le porte-parole militaire AI pour demander, parce qu'il est au Nord Kivu, les sources officielles ont fait état d'arrestation de certains éléments de l'ADEF au niveau de Beni. Et avec tout ce qu'il y a eu comme tuerie, quels sont les résultats? Est-ce que la MONUSCO a eu écho de ces arrestations ou peut nous aider à voir un peu clair là-dessus?
Commandant?
Oui, la situation dans la région de Beni, c'est vrai que nous déplorons ce qui s'est passé, nous condamnons les massacres qui a eu lieu. Une fois encore, nous présentons les condoléances aux familles et à la population. Mais suite à cet événement, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises et il y a des résultats qui sont en train d'être obtenus sur le terrain. Et vous savez, pour le secret des opérations, certaines informations que nous ne donnons pas, parce que, comme vous le savez, les groupes armés également écoutent les chaînes. Mais ce que nous pouvons dire par rapport à la situation à Beni, c'est que toutes les autorités militaires se sont mobilisées. Hier même, il y a une réunion avec le Force Commander et les différents commandants de secteur, commandants de brigade ici à Goma. Actuellement, le commandant de la force adjoint, le général Bayo, est à Beni. C'est pour vous dire qu'il y a des opérations conjointes qui ont été décidées avec les FADC contre le groupe ADF. Il y a des patrouilles conjointes qui sont menées actuellement de nuit comme de jour, et surtout de nuit parce que les actions sont commises de nuit. Également, nous avons redéployé des forces. Je ne peux pas vous donner le nombre, ni l'effectif, ni les unités, mais il y a eu des redéploiements de forces, il y a eu des réajustements de forces pour prendre en compte la situation particulière dans le territoire de Beni actuellement. Il y a également du matériel qui a été redéployé. Pas plus tard que ce matin, il y a des hélicos de la force qui sont intervenus au profit des FADC dans un accrochage. C'est ce que je peux dire actuellement par rapport à la situation à Beni.
Merci. Nous allons prendre la direction de Goma où nous allons demander trois questions. Et je rappelle une fois de plus que nous avons le rapport mensuel des droits de l'homme et nous avons l'équipe pays. Voilà. Goma, trois questions, s'il vous plaît.
Oui, Victor Bagati. Oui, c'est Victor Bigas, pour le compte du journal des ODNS. Est-ce qu'il ne serait pas important de nous amener des drones qui sont armés et celles-là qui se limitent à récolter des informations car la situation dans les Rwenzori compliqué.
J'ai pas bien compris la
bien
question.
Si vous...
Commandant, c'est à vous, les drones armés.
Bon, en fait, la question, c'est qu'il demande si on ne peut pas amener des drones armés. Actuellement, au niveau de la force, nous n'avons pas de drones armés. Nous avons des drones qui assurent la surveillance et des actions de reconnaissance. Maintenant, si vous pouvez vous adresser au Conseil de sécurité, je crois que le Conseil de sécurité est plus apte. Nous avons des hélicoptères d'attaque sur place et qui remplacent ces drones et qui peuvent fournir le même appui au sol si nous avons des problèmes. C'est ce que je peux vous dire.
Merci.
Oui. C'est Norbert Mundula pour la radio-télévision Graben. Les politiciens se rejettent de responsabilité sur le massacre de Beni. Ma question est de savoir que ce qui vous limite, vous et le gouvernement, pour établir l'identité des tueurs de Beni.
Vous posez la question à qui?
À vous,
majeur militaire. Bien, c'est pour... Ok.
Bien.
Commandant.
Les tueries qui se sont passées dans la région de Beni, pour l'instant, nous avons attribué, on a dit que des éléments supposés appartenir aux ADF. Il y a des arrestations qui ont été faites, il y a des enquêtes qui sont en cours et après on déterminera les vrais auteurs. Maintenant que les politiciens se rejettent, la responsabilité n'est pas de mon domaine d'intervenir par rapport à ça. Je ne sais pas si Charles a quelque chose à augmenter.
Rien à signaler de mon côté. Troisième question à Goma.
Salut. Moi, c'est Charlie Katereka, directeur de la chaîne canadienne Source Positive. J'aimerais savoir en premier lieu où en est-on avec les enquêtes sur l'assassinat des manifestants à Beni, qui ont voulu attaquer les installations de la MONUSCO. Et ma dernière préoccupation, c'est par rapport aux drones. Dernièrement, on a maintenant eu des crashs on aimerait savoir quel est vraiment le bilan de ces drones qui ont existé à Goma.
Pour les drones, je ne sais pas, il n'y a pas de son. Vous nous écoutez? Pour les drones, hein, les objets volants de la MONUSCO, il faut dire que effectivement il y a eu le crash d'un objet qui était effectivement au-dessus de Goma, mais en zone non habitée, il faut le signaler. Il faut dire que c'était par temps pluvieux très difficile. Nous avons eu ce matin des informations du groupe Celex qui a donc produit ces drones-là et qui dit que les quatre autres appareils sont en opération et continuent leur opération au-dessus des zones de l'est du pays à la demande du commandant de la force. Et puis le cinquième qui est donc endommagé a été récupéré, mais va être remplacé dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les drones. Le premier volet de la question était plutôt militaire, je crois. Commandant?
Bon, je crois que le volet n'est pas tellement militaire parce que il demande l'enquête sur les deux décès lors des manifestations à Beni. Bon, l'enquête est en cours. Lorsque l'enquête sera terminée, les conclusions seront rendues. Et l'enquête n'est pas seulement militaire. L'enquête est avec les autorités gouvernementales.
Ok. Retour ici à Kinshasa. Deux questions sur ma droite. Présentez-vous, monsieur.
Monsieur Nkere Maï de l'Agence congolaise de presse. Je voudrais poser une petite question à monsieur Abdulaziz. Nous avons remarqué une certaine baisse au niveau de la violation des droits de l'homme, selon les rapports que vous avez donnés. Qu'est-ce qui est à la base de cette baisse et comment vous vous sentez après le départ de Campbell?
Il n'y a pas de petite question pour commencer. Vous avez dit une petite question. Toutes les questions sont importantes et intéressantes d'ailleurs.
La petite question, elle est venue à la fin. Donc, non, vous avez raison, il y a une baisse. Mais comme nous avons l'habitude de le souligner au cours des différentes conférences de presse, c'est qu'en réalité, nous avons une baisse plus ou moins constante depuis quelques mois. Ça, vous l'avez tous, nous avons tenu ici à le souligner. Il y a un lien très fort entre insécurité, activité des groupes armés et violation des droits de l'homme. Ça, je pense que vous l'avez tous noté pour ce qui est de l'est du pays. Mais de façon générale, pour vous expliquer, je ne saurais vous dire dans le détail quelle est la cause de ces baisses, mais évidemment, vous avez noté qu'il y a eu une baisse dans l'activité des groupes armés, notamment au Nord Kivu. Le Nord Kivu qui souvent était avec la province orientale dans le peloton de tête pour ce qui est des violations des droits de l'homme. Nous avons noté très peu d'activité. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, par contre, on pourrait assister à une hausse assez considérable, compte tenu des informations et de tout ce qui a pu se passer au cours du mois d'octobre et probablement du mois de septembre. Nous ne communiquons que des informations, comme nous le disons souvent, que nous avons nous-mêmes pu vérifier avec notre propre méthodologie, pour être sûr de réellement des informations que nous avançons. Ça ne veut pas dire réellement, on peut avoir des chiffres beaucoup plus élevés, mais que nous ne serons en mesure de communiquer que pour le compte du mois d'octobre, en réalité. Parce qu'évidemment, des conditions d'accessibilité de certaines zones posent problème. Nous n'avons pas pu y aller. C'est le cas actuellement à Beni où nos équipes n'ont pas pu avoir la mobilité requise pour aller enquêter et donner des détails sur les massacres qui ont eu lieu. Bon, tout ça peut réellement impacter sur les tendances que nous donnons en tant que telles. Mais la baisse, elle est constante, mais elle peut changer compte tenu effectivement de la situation globale sur le terrain. Nous nous sentons très bien. Vous le voyez, je suis le directeur adjoint, je suis là, le travail continue. Scott est parti en vacances. Scott est parti non pas parce qu'il a été expulsé par le gouvernement, mais il avait son billet et il devait repartir le vendredi. Donc il est parti comme c'était planifié et comme c'était prévu. Je ne vais pas revenir sur le détail de la décision qui a été prise par le gouvernement. Le SRJ, Martin Kobler, a suffisamment discuté là-dessus. Il a suffisamment communiqué. Je pense que nous sommes sortis renforcés de cette situation. Le soutien que nous avons reçu nous montre réellement que nous sommes en train de faire un très bon travail et que nous allons continuer dans le cadre du mandat qui nous est confié à faire le travail que nous devons faire dans le pays. évidemment en clair dialogue, coopération avec le gouvernement de la RDC. Merci.
Ok, un peu plus au fond, on va prendre une question. Oui, allez-y.
Merci, Mariam Boya pour Télé 7. Ma question s'adresse au porte-parole militaire AI. C'est par rapport à la protection des civils à Shabunda. J'aimerais savoir si la MONUSCO a pris des dispositions pour protéger les civils à Shabunda, parce que là, selon nos sources, on fait état de d'une trentaine de morts et 48 blessés, et plusieurs la population est en train de fuir ce territoire. Est-ce que les dispositions sont prises pour la protection des civils, qui est même la mission de la MONUSCO? Merci.
Bon, de façon globale, d'abord, la MONUSCO et principalement la force prend toutes les dispositions pour protéger la population, parce que ça fait partie de notre mandat et nous sommes déployés à l'intérieur du territoire du Congo pour contribuer à la protection des populations, particulièrement dans le territoire de Shabunda dont vous faites écho. Même hier, lors de la réunion des différents commandants de brigades et de secteurs, les situations sécuritaires des différentes zones ont été exposées au commandant de la force, et le commandant de la force, au vu de ces différentes situations, a donné des ordres, a décidé que des réajustements soient faits, et principalement à Shabunda. Il faut noter que hier, cette question avait été soulevée et les unités sur place qui sont déployées dans Shabunda ont reçu des ordres clairs pour intensifier les patrouilles, pour mieux protéger la population et pour assurer sur place ce qui doit être fait, afin que, parce que ce n'est que les renseignements que nous obtenons, ce n'est que les patrouilles que nous faisons qui nous permettent de pouvoir évaluer la situation, réajuster, adapter et continuer à mieux protéger. Ce n'est pas que nous ne sommes pas au parfum de ce qui se passe, et vous savez, le Congo est un pays très vaste. Le Congo est un pays où plusieurs zones sont inaccessibles. Le Congo est un pays où l'action de nos forces se déroule dans des conditions difficiles. Mais nous faisons le maximum. Nous faisons ce que nous devons faire pour mieux protéger la population. Je vous remercie.
Nous partons à Goma. Deux questions à Goma. Et avant de revenir, je rappelle que Yvon parlait tout à l'heure de plan de contingence humanitaire pour les zones inondées du Sud Kivu. Et nous espérons qu'il y a de l'intérêt sur ce genre de questions, notamment dans le Nord Kivu. Goma, deux questions avant de revenir ici pour peut-être clôturer.
Oui, moi c'est Saïd Abbas Majid de Radio Mutani FM. Je pose la question à ce qui concerne l'exposé des PNID. On a parlé de la journée d'épargne, mais je reste un peu sceptique par rapport au pouvoir d'achat. Cas de la femme du Nord Kivu. Comment est-ce qu'une femme qui ne parvient pas à faire le bénéfice de 1 dollar par jour, il va épargner 10 dollars par mois? Je voudrais savoir aussi si PNID a mis au point de mécanismes pour essayer un peu d'accroître ou d'améliorer le pouvoir d'achat des cas de la femme.
On a un représentant du PNID dans la salle? Quelques éléments de réponse.
C'est une question qui concerne spécifiquement le PNUD. Donc, à ce sujet, il n'y a que le PNUD qui pourra répondre. On va rapporter la question et le PNUD pourra répondre la semaine prochaine.
Okay, merci bien. Deuxième question à Goma.
Dernière question là-bas.
Merci beaucoup. C'est Maurice Nduiko et Micha Pivois TV. La question s'adresse à Yvon. Nous savons qu'à Kalehe, il y a eu des grandes catastrophes, mais vous avez parlé de 775 maisons parties. Est-ce que cela peut se transformer en bilan humain et dire qu'il y a plus de 700 personnes qui sont parties?
Alors, le bilan provisoire que nous avons en ce moment, et je l'ai dit dans mon exposé en fait, on parle d'à peu près une centaine de personnes qui seraient pour l'instant portées disparues. Portées disparues, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas, on n'arrive pas à les retrouver. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants et peut-être ils sont, je sais pas, peut-être quelque part cachés dans la brousse le temps que les eaux baissent. Voilà. Donc, le bilan actuel fait d'à peu près une centaine de personnes portées disparues. Et évidemment avec tous les autres dégâts que j'ai énumérés en termes d'infrastructures socio-économiques. En ce moment, il y a des enquêtes, il y a des équipes qui sont sur le terrain, des équipes composées des Nations Unies, des ONG, ainsi que du gouvernement provincial du Sud Kivu. on espère pouvoir avoir des réponses assez, des résultats assez, assez rapidement, parce qu'effectivement, à la lecture des infos que nous avons, c'est une situation qui paraît assez catastrophique. Là, nous parlons de chiffres provisoires. Il est fort probable que les chiffres que je vous donne aujourd'hui peuvent augmenter dans les heures à venir. Donc, on croise un peu les doigts que ce ne soit pas plus grave que ce qu'on a déjà annoncé, en fait.
Merci. Dernière question à Kinshasa ici. Courte question peut-être. Il nous reste 3 minutes avant que Radio Capi ne déclenche son bulletin d'information. Allez-y.
Oui, merci. Moi, c'est Flavien Sens pour le compte des Planètes de Télévision. Mais c'est le directeur adjoint chargé des droits des noms. Je fais allusion au rapport que vous avez déjà publié de l'opération Likofi. Vous avez dit qu'il y avait 32 disparus, 9 ou 7 morts comme ça. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la situation des 32 disparus et aussi les 9 morts. C'est leur famille biologique qui avait enterré ou c'est la police qui a enterré? Si c'est le cas, c'est quel cimetière qu'on avait enterré les 9 morts? Merci.
Alors, je... Pour être clair, les rapports droits de l'homme donnent des éléments d'information pour donner la possibilité aux institutions nationales qui ont la responsabilité d'enquêter et de poursuivre, de le faire. Que ce soit très clair. Nous utilisons le conditionnel dans la plupart de nos rapports, même si nous savons exactement ce qui s'est passé, nous le faisons à dessein. Parce qu'il ne nous appartient pas de désigner nommément en disant « c'est tel qui a fait ». C'est la justice qui doit le faire. Nous collectons les informations, nous les mettons à la disposition des autorités en leur disant « voilà ce que nous avons constaté ». Il est dans la responsabilité des institutions nationales, la justice, la police, de réellement enquêter, d'établir les faits et de poursuivre et de prendre des actions si nécessaire. Nous parlons de disparition de façon très claire parce que nous n'avons pas les informations. Il appartient à l'autorité, quand vous venez prendre quelqu'un chez lui, il vous appartient de dire où est-ce que vous avez mis cette personne-là. C'est pour ça que nous parlons de disparition. Ça veut dire que nous ne savons pas le sort qui lui a été attribué. Si la personne a été tuée, si la personne est encore en vie. La disparition, c'est une situation légale dans laquelle une personne se trouve du fait qu'on n'a pas d'informations qui puissent attester réellement du statut, du vrai statut et de la situation de cette personne. Il appartient, selon les conventions, à l'autorité détenante ou les individus qui sont venus les chercher de dire qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là. On renverse la charte de la preuve. C'est l'institution qui doit rapporter. Nous sommes dans un pays démocratique qui a des institutions fortes, une police, une armée et un appareil judiciaire. Il appartient à toutes ces institutions de faire la lumière sur ce qui s'est passé.
Voilà, merci. C'est tout pour cette conférence de presse. Rendez-vous la semaine prochaine.